Bonsoir à tous. Depuis quelques mois, l'avenir des chamois se joue davantage sur le plan judiciaire et dans les instances que sur les terrains. Demain, le tribunal de commerce se prononce sur le projet de reprise. L'université citoyenne Thouarsaise s'intéresse aux travaux du CESER, le Conseil économique, social et environnemental, un espace de dialogue et d'aide à la décision pour les élus régionaux. Sur l'agglo de B, 7 communes disposent d'une bibliothèque dont la gestion a été confiée à des bénévoles. C'est le cas notamment à La Forêt-sur-Sèvre. Manu Grimaud publie « Rien ne s'arrête jamais » chez First Edition. L'autrice raconte comment le destin tragique l'a conduit vers la spiritualité. À 13 ans, Maël Sonko est devenu vice-champion de France de canicross avec Uxi. Sa partenaire, une femelle braque croisée 7 heures, le duo va participer au championnat du monde.
La météo, la suite du journal, même style de journée pour demain.
Le tribunal de commerce doit se prononcer demain sur la reprise des chamois niortais à moins d'une candidature surprise. Un seul repreneur potentiel s'étant fait connaître, le Vendéen Florimond Labulle. Mais si le tribunal valide son dossier, la Fédération française de football peut encore contredire la juridiction. Et c'est bien cela qui inquiète, car le COMEX de la Fédé peut décider de mettre fin aux activités de l'association tout simplement en février. C'est d'ailleurs ce qu'il a décidé concernant le Tour FC, dont les dettes étaient inférieures à celles du club niortais. Ces dernières semaines, quelques personnalités qui ont marqué l'histoire du club, comme Philippe Hinsberger ou Christophe Jallet, ont pris la parole pour soutenir un club qui leur est cher. Interrogé par Vincent Nori, le président du district de football, Alain Rouget a rappelé toute l'importance des chamois dans le paysage footballistique local.
Les chamois niortais, tous les clubs du département ont eu l'opportunité d'avoir peut-être des personnes qui ont pu postuler dans les équipes des chamois niortais. Et s'ils ne sont pas restés, ils sont peut-être revenus dans leur club, au même titre que certains éducateurs ou dirigeants. Et aujourd'hui, on n'a plus cette locomotive. J'ai peur, l'avenir est sombre. Vous n'êtes pas sans savoir que les chamois niortais sont club support de la Venise Verte et du Collège Fontaine.
Oui, la section de formation.
Section de formation de joueurs et de joueuses, mais aussi d'arbitres. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le qui-vive, nous sommes très attentifs à ce qui va se passer, et croyez-moi, nous sommes très inquiets, parce que on se demande ce que vont devenir nos meilleurs jeunes, où est-ce qu'ils vont aller. Aujourd'hui, nos jeunes, je ne sais pas où ils peuvent aller, voyez.
Alain Rouget, président du district de football des Deux-Sèvres, à propos des chamois niortais, le tribunal de commerce doit se prononcer demain sur la reprise du club. À compter de ce lundi, jour de reprise des cours dans la zone A, la plateforme gratuite d'aide aux devoirs de la région Nouvelle-Aquitaine reprend ses horaires en soirée. Elle sera désormais ouverte du lundi au jeudi de 17h à 21h. En maths, français, physique, chimie, philosophie ou anglais, les tuteurs qui sont des étudiants à l'université sont là pour répondre aux questions des lycéens et les aider dans la réalisation de leurs devoirs. Un seul numéro gratuit à retenir, 05 57 57 50 00.
Le César de la région, cet inconnu qui travaille dans l'ombre.
L'université citoyenne du Thouarsais organise une soirée débat le mardi 18 mars avec pour thème le César Nouvelle-Aquitaine, l'autre assemblée de la région avec 180 membres issus de tous les horizons de la société. Le Conseil économique, social et environnemental de la région est un espace de dialogue et d'aide à la décision pour les élus régionaux. Le César émet un avis avant le vote des budgets, par exemple. Il se penche également sur des questions de différentes natures, comme l'explique son président Yves Jean, au micro colline de Dominique Hérault.
Le président de région peut nous saisir de sujets qu'il considère importants et nous travaillons actuellement à sa demande sur l'analyse des cahiers de doléances des Gilets jaunes pour comprendre ce qu'est celles et ceux qui se pensent invisibles et qu'ils le sont d'ailleurs. Puis on peut se saisir de sujets. Nous travaillons sur un enjeu important en termes d'ascension sociale. C'est le fait qu'il y a un taux de réussite au bac très élevé en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est la région où le taux d'accès à l'enseignement supérieur est un des plus faibles de France. Et donc on a besoin de comprendre cela, car derrière, c'est la question de la formation des futurs cadres et ingénieurs de cette région et du pays. On travaille sur un enjeu qui concerne 95% des entreprises, c'est-à-dire les PME, et comment les PME sont en train de mettre en œuvre les enjeux de transition écologique et de faire évoluer leur process de production. On travaille sur l'impact de l'intelligence artificielle sur quelques filières économiques. Ensuite, nous faisons, dans le cadre de nos rapports, des préconisations au Conseil régional.
Du travail de réflexion et d'orientation, donc, pour lequel le Césaire est doté d'un budget de fonctionnement de 4,5 millions d'euros. En raison de son déficit de notoriété, le Césaire pourrait ressembler à un comité Théodile inutile et sur lequel l'argent public pourrait faire des économies en le supprimant. Écoutez ce que dit à ce propos Yves Jean.
C'est parti de cette petite musique qui se développe dans ce pays, j'aimerais dire dans une logique trumpiste, qui consiste à dire moins on a d'outils de connaissance et mieux on se porte pour agir. On propose de supprimer les Césaires, ces lieux qui sont des lieux où la société civile fait la démonstration, contrairement au débat public national, qui est très polarisé, qui n'est pas à la hauteur des défis qu'on a relevés. On fait la démonstration que les gens de la CGT, du MEDEF, de la CPME, de la CFDT, etc. sont capables, en prenant le temps, d'échanger sur le fond, de faire des préconisations et de se mettre d'accord sur des politiques qui seraient des politiques largement partagées par l'ensemble de la société civile. Et on a besoin, à côté du travail des élus, d'avoir cette représentation de la société civile. C'est vrai pour le Césaire, c'est vrai pour les conseils de développement.
Les centres d'intérêt du Césaire sont multiples et ils seront débattus avec celles et ceux qui viendront à la rencontre débat avec Yves Jean, par ailleurs président de l'université de Poitiers à l'initiative de l'université citoyenne Toircèze, ce mardi 18 mars à partir de 20h30 à la station T. L'entrée est gratuite. Reportage de Dominique Hérault. Dans le cadre de ses recherches historiques, la directrice du Centre Régional Résistance et Liberté de Thouars, Virginie Daudin, donnera une conférence sur l'internement des nomades dans le camp de Montreuil-Bellay entre 1941 et 1945. Cette conférence aura lieu demain, mardi 11 mars à 20h30 à l'auditorium des écuries du château de Thouars. L'entrée est à 2 euros et gratuite pour les familles des victimes, les étudiants, les lycéens et les demandeurs d'emploi. En bref, toujours la collecte 500% organisée par l'Amicale des donneurs de sang de Bressuire a lieu ce samedi 15 mars de 9h30 à 14h30 à Bocapaule avec l'objectif donc de 500 donneurs. Inscription sur dondesang.efs.santé.fr.
Elles sont 7 sur le territoire de l'agglo de B.
Beaulieu-sur-Bressuire, Moulins, Combran, la Petite Boissière, Le Pin, Saint-Aubin-de-Bobigné et la Forêt-sur-Sèvre. 7 communes disposent d'une bibliothèque dont la gestion a été confiée à des bénévoles. Elle reste bien sûr associée au réseau de l'agglo de B, permettant aux lecteurs de bénéficier de l'intégralité des collections, livres, revues, CD, DVD. À la Forêt-sur-Sèvre, par exemple, 4000 documents sont à disposition de la centaine d'adhérents actuels. Mais comme ailleurs, la bibliothèque n'est pas un simple lieu de lecture et d'emprunt, mais un véritable lieu de vie très ouvert. Sophie Gilbert y est l'une des 6 bénévoles depuis son ouverture en juillet dernier.
C'est un succès. Il y a de l'animation. Le mercredi matin, il y a de l'animation. Et ce qu'on arrive aussi à obtenir dans les animations, c'est des ateliers intergénérationnels. Donc, il y a des enfants, mais il y a aussi des personnes de 60, 70 ans qui viennent, soit avec leurs petits-enfants, soit toutes seules, faire les animations du mercredi matin. Ça, c'est vraiment super. C'est vraiment une bibliothèque ouverte à tous et surtout pas une bibliothèque de silence. On veut du bruit dans cette bibliothèque. Il y a les écoles qui viennent, il y a le relais petite enfance qui revient, il y a le centre de loisirs qui est juste à côté de la bibliothèque, qui est venu mercredi dernier avec 12 enfants. Donc, bah, ils avaient la bibliothèque à eux tout seuls. Donc, bah, ils lisent, ils regardent, il y a des jeux.
Alors, il y a les animations dans les murs, il y a également des animations hors les murs.
Alors, hors les murs, on se déplace dans les écoles. Par exemple, il y a une animatrice qui va dans les écoles pour l'initiation à la langue des signes. Et c'est vraiment un plus pour les enfants.
La bibliothèque de la Forêt sur Sèvre est située près de la mairie. Elle est ouverte les lundis de 16h à 18h, ainsi que les mercredis et samedis de 10h à midi. Sujet réalisé par Patrice Bémanongi.
On reste dans le domaine littéraire avec Rien ne s'arrête jamais.
Manu Grimaud signe chez First Edition son 5e ouvrage, un tournant pour cette Vendéenne qui a publié les 4 précédents en auto-édition et qui espère maintenant élargir son lectorat. C'est déjà réussi et chez First, on ne doit pas regretter le pari littéraire puisqu'à peine un mois après la sortie et un premier tirage à 5000 exemplaires, il faut déjà réimprimer ce livre préfacé par Geneviève Delpech, femme du célèbre chanteur et médium. Rien ne s'arrête jamais est en effet classé dans la catégorie spiritualité. Mariée, 2 enfants, dotée d'un esprit plutôt cartésien, Manu Grimaud a toujours écrit facilement et s'imaginait plutôt au rayon roman dans les librairies. mais une tragédie, puis une deuxième, les décès de ses deux fils, Alan et Sacha, fauchés à l'adolescence à 3 ans d'intervalle dans des accidents de la route, l'ont métamorphosé et la spiritualité s'est imposée à elle.
On parle d'une spiritualité qui s'est imposée à moi au moment du premier drame de ma vie en 2019. Et j'ai à cœur de le partager parce que c'est pas quelque chose de limpide pour tout le monde. Alors je l'explique avec des mots simples dans mon ouvrage. Parce que la spiritualité, ça englobe beaucoup de choses. Alors j'essaye d'utiliser des mots simples pour que ça touche le plus de personnes possible.
C'est-à-dire que vous avez établi le contact avec vos enfants disparus?
C'est pas vraiment moi qui ai établi le contact, c'est plutôt eux qui sont venus à moi. Et c'est mon premier fils, en fait, qui m'a, donc il s'appelle Alan, qui m'a ouvert à ça en venant directement communiquer avec moi au travers d'un crayon, en fait, qui s'est posé sur une feuille et qui s'est mis à écrire un petit peu tout seul, tenu par ma main. Mais voilà, j'ai eu des premiers messages par mon fils en 2020. Et c'est ce que j'ai à cœur d'expliquer, c'est qu'on peut tous s'y relier, en fait. C'est pas le fait de quelques personnes qui vont être élues pour pouvoir communiquer avec le monde invisible. C'est bien tout le monde qui peut avoir cette chance. Et ma vie était complètement ordinaire avant qu'elle se métamorphose.
Un vécu et un univers que Manu Grimaud partage dans un style direct avec humour et autodérision, créant un lien fort avec ses lecteurs.
Oui, j'aime tutoyer le lecteur et la plupart des personnes que je rencontre en séance de dédicace me disent qu'ils ont l'impression que je suis à côté d'eux en train de leur raconter l'histoire et je trouve que c'est le plus beau des compliments pour un auteur.
Écrire, pour vous, c'est naturel, c'est une facilité.
Oui, c'est une facilité, ça a toujours été là et il y a des chapitres entiers que je peux écrire sans même les relire. Quand l'idée vient, en fait, il n'y a plus qu'à s'y mettre et j'ai toujours aimé ça. Et j'aime que les phrases soient assez faciles, assez limpide à lire et j'utilise toujours du vocabulaire relativement simple et j'ai reçu aussi des compliments de certaines personnes qui sont dyslexiques et qui arrivent assez facilement à se plonger dans l'histoire et je trouve aussi que c'est agréable de savoir ça.
Ça s'appuie sur votre histoire personnelle évidemment, mais on est dans le registre romanesque.
Oui, complètement. Donc là, cette fois-ci, et c'est aussi un choix qui a été fait avec mon éditrice de vraiment le tourner en forme de roman. Et cette fois-ci, à part donc ma famille proche, mon mari, mes enfants et moi-même, tous les prénoms ont été changés et on le lit de manière fluide, y compris si on nous connaît pas évidemment personnellement.
Manu Grimaud, autrice de Rien ne s'arrête jamais, publiée chez First Edition et disponible en magasin et sur les plateformes type Fnac, Amazon. Elle était en séance de dédicace à l'Hyper-U des Herbiers ce week-end et sera à Cholet ce jeudi 13 mars pour une conférence sur la spiritualité organisée par l'association Luminescence à 20h, billetterie sur Hello Asso.
Un vice-champion de France parmi les canidoles bressurés.
7 adhérents du club ont participé le week-end dernier au championnat de France de canicross, discipline sportive qui associe un coureur à son chien et qui demande une belle symbiose entre le maître et l'animal, sans parler évidemment d'une sacrée condition physique. C'est l'un des Benjamins de la troupe qui a inscrit son nom au palmarès. Maël Sonko, 13 ans, a terminé deuxième dans la catégorie minime avec sa chienne Uxie, une jeune chienne dressée par la maman de Maël, Marion Bayard. Maël Sonko, interrogé hier soir par Vincent Nori.
La course s'est très bien passée. On a fait 2 manches. La première, un peu compliquée. À l'arrivée, j'étais vraiment très fatiguée. J'ai fini 4e à la première manche, à 2 secondes du 3e. Et à la 2e manche, j'ai vraiment tout donné pour que moi et ma chaîne, on soit contents. On a réussi à battre mon record. Et j'ai fini 2e et ma chaîne aussi était extraordinaire.
Une jeune chaîne de 19 mois, c'était quasiment tout nouveau pour elle.
Ouais, c'est ça. Ça fait que sa 2e course. Et elle est vraiment au top alors qu'elle vient juste de commencer. Je pense que c'est grâce à maman, elle l'a bien éduquée.
Vice-champion de France, Maël Sonko et Uxie sont qualifiés pour les championnats du monde qui auront lieu en République tchèque en novembre, à la fin de l'année. D'ici là, l'adolescent sélectionné dans l'équipe départementale de basket va retrouver les parquets et le ballon orange.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Ce lundi est une journée agréable, Fabien.
Oui, demain mardi, on se dirige vers le même scénario à peu près que ce lundi, avec de la douceur de nouveau pour les maximales qui monteront à 15 à 16 degrés, comptez 5-6 degrés pour les minimales. Demain matin, la suite de la semaine avec un mercredi gris et pluvieux avant de retrouver un temps plus ensoleillé mais plus frais sur la fin de semaine.
Merci Fabien, voilà pour toute l'actu près de chez vous ce soir et pour ce lundi. On revient demain matin.
Demain matin à 7h, vous avez rendez-vous avec Boris Blais. Bonne soirée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.